7h24, hier au point de presse, le trio, M. Legault, M. Dubé, Dr. Arruda, avait un message assez clair. Les variants sont extrêmement préoccupants. Un. Deux, la vaccination va bon train, mais pas assez vite encore. Et on verra les approvisionnements dans les prochaines semaines. Il y a toute la question du vaccin d'AstraZeneca. Puis en même temps, ce qu'on constate, c'est qu'encore, on le voyait, que les cas d'éclosion découle beaucoup de rassemblements familiaux, donc des gens qui respectent pas les consignes et décident de faire des activités ensemble. Il y a des cas où sans milieu de travail. Bref, on est dans une situation assez problématique pour les prochaines semaines. Et le message hier, c'était « Soyez respectueux des règles, sans quoi on va être obligé de sévir, de confiner à nouveau, puis d'imposer des mesures plus strictes. » Je vais faire le point sur toute la question de la vaccination, encore une fois, avec Dr. Carl Weiss. Dr. Weiss, bonjour. La semaine dernière, vous nous aviez un peu prévenu, là, je ne sais pas si vous aviez vu ça dans une boule de cristal, là, mais en nous disant, écoutez-moi, le vaccin d'AstraZeneca, pour les gens de 60 ans et plus, très bien, mais pour les gens de 55 ans et moins, je serais prudent. Pourquoi vous aviez, disons, cette réserve, cette mise en garde?
Ben, il fallait juste voir ce qui scientifiquement se passait à travers le monde. C'est clair qu'un vaccin comme ça, lorsqu'on avait ces signaux qui arrivaient d'Europe, principalement d'organismes extrêmement sérieux dans des pays qui ont des systèmes de sécurité très sérieux, et qu'on lisait la littérature, il était clair que ce vaccin-là causait certains problèmes dans une population plus jeune, et que par mesure de précaution, on devait prendre une mesure immédiate de le restreindre à un certain groupe de la population. Les patients plus âgés, en médecine, c'est encore une fois, c'est toujours les avantages et les inconvénients. Donc oui, si vous avez plus de 70 ans, c'est clair que ce vaccin est utile parce qu'il réduit la maladie sévère et que dans ce groupe d'âge-là, on sait que les gens peuvent tomber très malades, aller aux soins intensifs, faire des thromboses. La COVID donne la thrombose. Mais on sait que, moi je vous dirais qu'en bas de 60 ans, d'ailleurs c'est ce que l'Allemagne a décidé, qu'en bas de 60 ans, et c'est ce que je disais, ce vaccin-là ne devrait pas être administré, sauf si on était dans une situation extrême où on n'avait absolument rien d'autre. Là, on a deux autres vaccins qui fonctionnent très bien, les deux vaccins ARN, qui sont les vaccins de Pfizer et de Moderna. On sait même d'ailleurs qu'il y a une étude qui vient d'être publiée avec le vaccin de Pfizer chez les adolescents qui montre que ça marche très bien. Donc, on est en train de baisser l'âge. Il y a une autre étude qui se fait actuellement chez les enfants. C'est des vaccins qui ont été administrés à des centaines de millions d'autres aujourd'hui et qui commencent à montrer un profil de sécurité très grand. Donc, si on était dans une situation de non-pandémie, probablement que le vaccin d'AstraZeneca aurait peut-être été même retiré du marché. C'est pas une exclusion. D'ailleurs, regardez, les États-Unis ne veulent pas l'homologuer. Je me demande même si AstraZeneca veuille que le vaccin soit homologué aux États-Unis. Donc, c'est un peu normal que lorsqu'il y avait tout simplement des données scientifiques, qu'on n'ait pas réagi plus tôt. Et on peut se poser la question, est-ce qu'on n'a pas réagi plus tôt parce que on n'avait pas de vaccin et en se disant, plutôt que de rien donner, on continue à donner ce vaccin en attendant d'avoir plus de données. Alors, c'est tout simplement une question d'approvisionnement. C'est qu'on sait qu'au Canada, on n'a pas beaucoup de vaccins actuellement et que dans ce contexte-là, on disait, on va faire flèche de tout bois. C'est pas un mauvais vaccin, il faut être clair là-dessus. Personne n'a été mis en danger dans la population, mais c'est un vaccin qui, dans les circonstances actuelles, n'était peut-être pas le meilleur pour surtout le groupe en bas de 60 ans.
Je me souviens, on parlait d'un cas problématique sur 1 million. Après ça, on a ramené ça à 1 sur 100 000. C'est vous l'expert, là. Est-ce que de telles données, là, c'est vraiment, tu dis, ça nous semble beaucoup quand on regarde le profil?
Oui, 1 sur 100 000, c'est sûr que quand vous parlez surtout d'une population très jeune, hein, vous parlez de gens, on va dire, en bas de 50 ans, à ce moment-là, d'avoir des thromboses qui surviennent, des thromboses sévères avec des décès dans certains cas en Europe, c'est sûr que ça met des points d'interrogation et ça met beaucoup de questionnements sur la sécurité du vaccin en question. Donc encore une fois, quand on voit ce genre de choses-là, ce qui est aussi important de rappeler, c'est que quand un phénomène, et on s'en était parlé dans le passé, arrive de façon une fois sur 100 000 ou une fois sur 75 000. C'est pas forcément quelque chose qu'on voit dans les études cliniques. Rappelez-vous, quand on met des vaccins sur le marché, on va faire une étude avec, disons, on va dire 30 000 personnes ou 40 000 personnes. Donc, si un phénomène est rare, donc s'il arrive, disons, une fois sur 50 000 ou sur 100 000 et que vous n'avez que 30 000 personnes dans votre étude, vous n'allez pas forcément le voir. D'où l'importance d'avoir ce qu'on appelle des études post-mise en marché, qui là, quand on l'administre à des millions de personnes, on voit les phénomènes rares apparaître. Et c'est ça la surveillance qui se fait post-mise en marché de ces vaccins ou d'un médicament. C'est la même façon de le faire.
J'étais un peu surpris de voir ce matin que, à travers le monde, certaines études étaient en cours pour voir si on pouvait combiner des vaccins de fabricants différents. Bref, un Pfizer avec un Moderna. Au début, j'avais l'impression que tu reçois une première dose, par exemple, de Pfizer, bien, il faut que ça soit la deuxième dose de Pfizer. Hier, je posais la question au Dr. Arruda pour les gens qui ont reçu AstraZeneca qui se disent, bien, pour la deuxième dose, j'aimerais avoir un autre fabricant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Bon, alors la première chose, c'est qu'il faut garder le même vaccin. Dans l'état actuel des choses, on ne peut pas changer de vaccin, ce n'est pas recommandé. Les vaccins agissent de façon différente. Les mécanismes d'action des vaccins ne sont pas toujours identiques. Maintenant, actuellement, parce que justement on est pris avec toutes sortes de limites en termes de production de vaccins dans certains pays, il y a des gens qui font des études avec des combinaisons de vaccins. Ce n'est pas l'idéal. Dans une situation désespérée, on n'aura pas le choix de le faire. Il est clair que les gens qui ont reçu, par exemple, une première dose d'AstraZeneca et qui ont moins de 60 ans, ben, ces gens-là, peut-être qu'on va leur donner un vaccin différent, ce qui serait probablement pas problématique et pas dangereux. Même à la limite, ce serait peut-être même bénéfique pour eux. La seule chose que je vous dis, c'est que quand je vous dis ça, j'ai pas grand-chose dans la littérature médicale pour vous dire oui, il y a des données publiées là-dessus. C'est très théorique ce que je vous dis. Donc, c'est essayer de comprendre un peu les mécanismes de réponse au vaccin, mais il n'y a pas de données de façon sérieuse, publiées, probantes, sur lesquelles je peux m'appuyer. Mais si on n'a pas le choix, on n'aura pas le choix que de prendre cette voie-là.
OK. Vous avez insisté à plusieurs reprises sur l'importance de la vaccination. On a beau parler des vagues et des variants. La réponse, la clé, ce sont évidemment c'est la vaccination. Qu'est-ce qu'on sait maintenant? Parce que de tester, de faire des essais cliniques, c'est une chose, là, mais l'expérience de la vaccination dans les populations, qu'est-ce qu'on sait donc sur le fait que quand je reçois le vaccin, je me protège, puis en même temps sur ma capacité de transmettre le virus à quelqu'un d'autre?
Ben, on sait que lorsque vous vaccinez de façon massive, vous allez avoir un effet protecteur sur la population avec un retour à des activités normales. Donc, les pays qui l'ont fait de façon très extensive, on voit qu'ils commencent à avoir un retour à la normale. Vous voyez l'exemple d'Israël, qui est le pays qui a le plus vacciné sur la planète, où on autorise maintenant des rassemblements jusqu'à 5000 personnes à l'intérieur. Donc, vous voyez, 15000 personnes, même à l'extérieur, sans masque, sans rien, si les gens ont reçu leurs deux doses de vaccin. Donc, on voit que d'un point de vue populationnel, une fois que vous le faites, il y a un impact sur le nombre de cas. Ben, l'autre chose, évidemment, c'est que la transmission du virus, on le sait de plus en plus, chez les gens vaccinés, est beaucoup moins efficace. Donc, même si elle pourrait arriver, les États-Unis, le CDC a aussi dit que si vous aviez eu vos deux doses de vaccin, vous pourriez quasiment vous rencontrer sans porter de masque, parce qu'on sait maintenant de plus en plus que la transmission du virus par des gens totalement vaccinés est nettement moins grande que lorsque les gens ne le sont pas. Donc, c'est clair que c'est notre seul outil pour sortir de cette crise-là. Sinon, on joue un yo-yo continuel de confinement, reconfinement, fermeture, et avec une population qui commence à être fatiguée de tout ça. Je pense que tout le monde l'a bien souligné à tous les niveaux, hier, avant-hier, que beaucoup de Québécois, surtout dans la population la plus jeune, commencent à voir, surtout et au printemps, commencent à voir toutes ces mesures de confinement comme étant difficiles. Donc, c'est un ensemble de choses qu'il faut faire pour accélérer la campagne de vaccination, parce que c'est notre seule façon d'arriver à une vie un peu plus normale, on va dire, d'ici quelques mois.
J'aimerais vous entendre, parce que j'ai vu en fin de semaine, par exemple, le Collège des médecins prendre position. J'ai vu d'autres experts en santé publique dire « ça nous apparaît un peu timide comme mesure de la part de Québec, qu'il faudrait, on pensait aux écoles, entre autres ». Puis vous avez raison, c'est toujours l'équilibre entre les mesures sanitaires et tenir compte également de l'impact chez les jeunes et dans la population en général face à un an de mesures. Est-ce que vous croyez qu'on aurait dû serrer la vis encore pendant quelques semaines ou il y a quelques semaines pour être plus efficace tout en combinant ça avec une campagne de vaccination où là, même si on serre la vis, les gens sont comme, disons, plus capables d'en prendre?
Ben, moi, je pense qu'il y a deux points sur lesquels je suis tout à fait en accord avec ce qui a été ressorti par mon ordre professionnel, qui est le Collège des médecins du Québec, en disant, par exemple, qu'on se pose des questions sur pourquoi le retour à l'école du secondaire, alors que tout allait sur des rails qui étaient fonctionnels et le train n'était certainement pas en voie de dérailler dans ce côté-là. Deuxièmement, il y avait aussi tout l'aspect des lieux de culte où je comprends que les gens peuvent encore aller dans les lieux de culte, mais mettre ça subitement à 250 personnes, ça devient un petit peu plus difficile à gérer, et surtout qu'on n'est pas encore capable de recevoir des gens chez soi. Donc il y a une espèce de dichotomie qu'on comprend pas trop et qui n'aide pas les mesures, la compréhension des mesures par la population. On dirait qu'il y a une espèce de fatalisme dans la santé publique, de découragement, je dirais, quasiment en disant, ben là, on a une troisième vague, on a des variants, et puis, oui, on va avoir plus de cas. Je pense qu'il faut au contraire, ça fait plus qu'un an qu'on se bat, c'est pas le moment de lâcher le morceau, surtout que là, on a un outil qui est la vaccination. Puis les Québécois, dans l'immense majorité, ont été des gens très disciplinés. Bien sûr, on a tous entendu parler de problèmes qui ont pu survenir ici et là, mais quand on regarde sur l'ensemble de la population, je pense que tout le monde a quand même travaillé très fort et a été discipliné au cours de plus d'une année pour arriver là où on est aujourd'hui. On a des chiffres, surtout dans cette deuxième vague, et pour moi, c'est pas important, deuxième, troisième ou quatrième vague. On est dans une vague où on a une petite remontée du nombre de cas. Les variants, la bataille est déjà perdue. On s'en est parlé depuis des semaines. C'est fini. Les variants vont être prédominants. Ils le sont déjà au Québec. Mais d'ici le mois de juin, on aura quasiment que des variants à 80%. Donc, c'est pas là que la bataille se joue. La bataille se joue vraiment au niveau de la vaccination. Et surtout au fait que il faut pas relâcher certaines mesures qui sont des mesures, on va dire, problématiques pour justement la dissémination de souches qui pourraient causer problème en termes de transmission. Et là, on pensait aux lieux de culte à 250, on pense aux écoles qu'on ouvre alors qu'on sait très bien que les variants sont beaucoup dans la population la plus jeune, et on nous dit en plus que dans les 20 à 40 ans, le respect des mesures commence à être plus difficile parce que les gens sont fatigués, un peu avec raison, et on les comprend d'un point de vue psychologique. Donc tout ça mis ensemble, je pense que c'était beaucoup mieux d'essayer de maintenir une ligne qui était une ligne, je vous dirais, adéquate. On a augmenté, par exemple, l'heure du couvre-feu. On a donné donc plus de flexibilité et de latitude aux gens. Il y a des régions qui avaient été déconfinées jusqu'à un certain point. Mais je vous dirais de favoriser la possible transmission de certaines souches dans des milieux comme les lieux de culte ou les écoles, alors qu'on est disons, à la croisée des chemins. Mais à mon sens, c'était peut-être pas le moment le plus opportun.
Vous savez, Dr Weiss, hier, j'écoutais le point de presse, puis je me disais, le message qu'on envoie, c'est si vous ne respectez pas les consignes qui sont claires, là, pas de rassemblement, pas de brunch à Pâques et tout ça, si vous n'avez pas le masque, si vous ne respectez pas le 2 mètres, vous allez nous forcer à vous serrer la vis. C'était comme, je vous transfère la responsabilité.
Oui. Alors, c'est vrai, dans un sens, on doit être d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'on a tous une responsabilité sociale. Donc, on a chacun notre part, je vous dirais, du contrat à respecter. La part du contrat des citoyens du Québec, c'est de respecter les consignes gouvernementales sur le port du masque. Je vous donne un exemple. Je lisais que l'Institut national de santé publique a recommandé le 30 mars le port du masque continu dans les milieux de travail. Je suis littéralement estomaqué d'apprendre que ça a pris jusqu'au 30 mars 2021 pour dire ce genre de choses-là, alors que dans les milieux hospitaliers, et nous, on l'a fait depuis le mois de janvier 2020. Donc, ouais, c'est le genre de mesure où il y a une certaine dichotomie entre, d'un côté, on dit aux gens « respectez les mesures », puis c'est totalement normal et correct, et je soutiens ça à 1000%, et d'un autre côté, en disant « ça prend autant de temps pour dire « il faut mettre un masque continuellement au milieu de travail ». Ça fait très longtemps qu'on aurait dû dire aux gens « mettez un masque continuellement dans votre milieu de travail ». Donc, ce qui est important, oui, c'est de respecter les mesures. Je pense que ça, c'est clair. Il y a encore des gens qui ne les respectent pas tout le temps. Mais encore une fois, l'immense majorité des Québécois le font, et le font de bon cœur et se plient aux mesures. Ça, c'est le contrat du citoyen, de tout ce dont on doit faire. Le contrat, je vous dirais, de l'autre côté, là, le contrat du gouvernement, de la santé publique, c'est de justement s'assurer qu'on a des consignes très claires et d'essayer de nous encourager et de minimiser les risques, comme par exemple, on parlait encore une fois, des écoles, des lieux de culte. Puis là, je pense que tous les scientifiques, tous les ordres professionnels se posent des questions sur le bien fondé de cette mesure où on ne comprend pas trop, je vous dirais, ce qui est en arrière de tout ça. Alors,
ce que vous dites dans le fond, Dr Weiss, clarté et cohérence.
Exactement. Je pense que c'est l'idée, c'est vous savez, c'est comme s'il nous restait, on est en train de courir un marathon. C'est sûr qu'on n'a pas fini la course du marathon, mais le marathon, c'est 42 km, 195. On en a couru à peu près 38. On n'est pas loin de la ligne d'arrivée. C'est le moment de nous dire, au lieu de nous dire, ben là, arrête, accélère, c'est de nous dire, il reste pas tellement de distance avant la ligne d'arrivée, on sait qu'on est fatigué, mais c'est vraiment pas le moment de lâcher. Alors, tant qu'on va dans la même direction, on va finir par traverser la ligne d'arrivée. Plus vite on aura des vaccins, meilleur sera notre temps et on traversera la ligne d'arrivée encore plus vite. Donc, c'est la clarté et la cohérence, c'est tout à fait ça.
Dr Weiss, merci. Bonne journée.
Vous aussi.
Au revoir. Dr Carl Weiss, microbiologiste, spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital Général Juif de Montréal.